Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vais vous en raconter une qui parle de brûlure. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Par un étonnant concours de circonstances, le commissaire Provence fêta son départ à la retraite le jour même où fut ouverte, au sein de la police nationale, la base de données dans laquelle étaient répertoriées toutes les enquêtes non résolues depuis 25 ans. Sur le moment, Provence ne prêta guère attention à l'événement et il ne prit réellement conscience du profit qu'il pouvait en tirer que 3 jours plus tard, lorsque son remplaçant, Bourgoin, un jeune type aux rouflaquettes impeccables, lui présenta l'application. « Vous voulez dire, demanda-t-il, que je peux trouver là un résumé des enquêtes qui ont un rapport avec celles que j'ai traitées et qui n'ont pas été résolues ?»«
Ouais, s'il s'agit d'un homicide, » répondit Bourgoin.
« C'est même le but du logiciel. »
« Et comment ça marche ?»
Vous rentrez dans l'ordinateur 10 mots qui vous semblent caractéristiques du cas qui vous intéresse, par exemple, strangulation, vol, chantage, etc. Mais vous pouvez aussi entrer des critères moins, moins policiers. Par exemple, rivière, étang, forêt, bijoux.
Je comprends.
Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la machine vous communique les dossiers des affaires qui présentent au moins 5 mots communs avec votre propre liste.
Et ça marche?
Je sais pas. C'est nouveau. Dans le principe, c'est séduisant.
Vous avez raison, Bourgoin.
Ça vaut le coup d'y penser. Provence sortit songeur de cette brève conversation. Il laissait derrière lui peu d'enquêtes non résolues. À vrai dire, il n'en laissait qu'une. Et il avait toujours pensé que cette affaire présentait des aspects si particuliers qu'il était impossible d'en trouver une autre pouvant s'en approcher. Ça s'était passé en 1970, dans un quartier de Toulouse tellement chic que la police n'y mettait jamais les pieds. Un retraité du Centre d'études atomiques, Lucien Rebillard, physicien de renom, avait été torturé pendant de longues heures et avait succombé à ses blessures. Le meurtrier avait fait preuve d'une cruauté qui dépassait l'imagination. La victime avait été brûlée au 3e degré sur tout son corps, depuis la plante des pieds jusqu'au front, par l'intermédiaire d'un fer chauffé au rouge, et le même motif, étrange, impossible à interpréter, avait été apposé avec patience et lenteur pour prolonger les souffrances de Rebillard pendant presque 2 jours. L'autopsie n'avait mis en évidence aucune brûlure mortelle, mais l'accumulation des souffrances avait été telle que le cœur de la victime avait lâché. Détail sordide, le tortionnaire avait fait boire le physicien et avait humecté son corps pour prolonger le supplice le plus longtemps possible. Dans cette affaire, tout ressemblait à une vengeance. Une vengeance longuement mûrie, froide et implacable. Provence était certain, mais cela relevait davantage de l'intuition que d'une observation rationnelle des faits, que la clé du problème se trouvait dans les brûlures. Et dès qu'il pensait à cette affaire, il se souvenait de ces paroles bibliques « Qui vit par l'épée périra par l'épée » et il se disait aussitôt « Qui vit par le feu périra par le feu ». Le légiste avait été formel. Les brûlures étaient du 3e degré, les plus graves, celles qui dépassent les couches supérieures de la peau et détruisent les nerfs et les vaisseaux sanguins. La plupart du temps, elles sont mortelles à cause du risque élevé d'infection qu'elles entraînent. Là, ce n'était pas le cas. On avait juste cherché à faire souffrir la victime, comme si sa mort, en quelque sorte, était secondaire.
Love my misery. Baby, whispers what you done. Crazy, I bought a gun. My fingers to your window. Whiskey's on my clothes. I'm bad news. It's born in my blood. Bad news. Bad news.
L'enquête avait été classée assez vite. Pas de pistes, pas de témoins, pas de mobiles. Province, à l'époque, avait été étonné par la hâte avec laquelle le dossier avait été refermé, mais il ne disposait d'aucun argument pour persuader ses chefs de le laisser poursuivre son enquête. Il débutait à la PJ, il voulait faire ses preuves, ils étaient jetés sur l'affaire suivante. Maintenant, 30 ans plus tard, il en éprouvait du dépit. Les paroles de Bourgoin trottaient dans sa tête avec insistance. S'il devait choisir 10 mots pour résumer cette enquête avortée, lesquels choisirait-il ? Brûlure, bien sûr, en tout premier. Puis torture, vengeance, et puis quoi ? Il fut étonné du peu de mots qu'il identifiait pour résumer l'affaire. Cela donnait une indication sur le caractère préparé et méticuleux du meurtre. Il griffonna à la suite des 3 premiers mots, précision, organisation, discrétion. Puis il pensa aux marques plaquées sur la peau de Robillard. Il savait qu'elles avaient un sens très précis, mais il n'avait pas su déterminer lequel. Alors il ajouta « symbole » à sa liste. Enfin, à la fois parce qu'il manquait d'idées et qu'il s'avisa qu'on s'était peu intéressé à la personnalité de la victime, il termina sa liste par « physicien », atomique, célibataire. Il replia sa feuille de papier en se promettant d'y revenir et d'y jeter un œil plus critique le lendemain, mais 20 minutes plus tard, à peine, l'impatience et la curiosité triomphèrent de ses résolutions et il se précipita dans le bureau de Bourgoin. Ce dernier se mit aussitôt à la disposition de Province et alluma son ordinateur, lequel se soumit, un animal obéissant, aux volontés de son maître. Ils se connectèrent à la base de données. Pendant un moment, la machine, semblable à une otarie qui attend qu'on lui jette un poisson, resta muette. Puis les 10 mots furent introduits dans le logiciel de recherche au moyen de l'index de la main droite de Province, seule partie de son corps apte à toucher un clavier d'ordinateur. De nouveaux bruits s'élevèrent du PC. Ils hésitaient entre le grommellement confus d'un ours qui s'éveille et le cadencement froid, électrique, d'un mécanisme sûr de sa force. Le verdict tomba au bout d'une minute. Province n'en croyait pas ses yeux. Une minute. Et il y avait 2 affaires qui présentaient avec la sienne un nombre si élevé de similitudes qu'il était impossible qu'elles ne fussent pas liées au meurtre de Robillard. Le commissaire demanda à Bourgoin de lui imprimer les 2 dossiers dans leur intégralité, puis, quand il eut à main les 2 liasses de feuillets, il s'enferma dans son bureau pour les lire dans leur intégralité. 12 heures plus tard, Provence, écartelé entre épuisement et fébrilité, reprit la liste des mots qu'il avait constituée et la relut. Il n'en revenait pas. Moins de 6 mois après la mort de Rebillard, 2 hommes avaient été tués dans des circonstances strictement identiques. Un colonel en retraite, à Vannes, et un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, à Nancy. Les 2 dossiers contenaient le dessin des marques appliquées sur les corps. C'étaient les mêmes. Evan, qui avait eu plus d'astuces et d'intuition que ses collègues de Toulouse et de Nancy, avait percé le sens de ce signe. Dans son rapport, il avait mentionné ceci : « La forme des brûlures m'a fait penser à des caractères chinois. J'ai donc montré la reproduction du symbole à un professeur de chinois de l'université de Rennes. Celui-ci m'a détrompé. Il s'agissait en fait d'idéogrammes japonais. Il a ensuite été facile de le déchiffrer. Cet idéogramme signifie Hiroshima. Cela ne nous a pas fait avancer dans l'enquête, mais j'ai jugé bon de le garder en mémoire. » Provence trouva un autre élément qui permettait d'établir un lien certain et avéré entre les 3 victimes. Elles s'étaient toutes trouvées en Algérie au même moment, dans les années qui avaient suivi l'indépendance du pays. Et elles avaient, toutes les 3, même si leur dossier personnel devenait évasif sur cette période, participé aux essais nucléaires français dans le Sahara. Rebillard en tant que responsable scientifique, le colonel comme chef du bataillon constitué pour contrôler militairement la région, et le fonctionnaire comme deus ex machina du gouvernement de De Gaulle. Dans l'esprit de Provence, une piste solide, structurée, cohérente se dessinait. Son instinct de chasseur se réveilla, mais l'instant suivant, ses yeux tombèrent sur l'idéogramme japonais, Hiroshima, et il se souvint alors qu'il partait à la retraite.
Il rangea les deux dossiers dans une boîte d'archives qu'il déposa sur l'étagère marquée « Direction maison », puis il s'imposa d'oublier la mort de Rebillard et de penser seulement aux préparatifs de son départ. Une semaine plus tard, il quittait pour toujours les locaux de la police judiciaire de Toulouse, boulevard de l'Embouchure, et il jeta un regard, à la fois triste et gai, sur le canal du Midi, s'étonnant de trouver sa présence aussi extraordinaire et inattendue qu'au premier jour, environ 30 ans plus tôt. Un mois après, il savait tout sur les essais nucléaires français dans le Sahara, ou, tout au moins, tout ce dont la presse avait pu parler. Comme il était de la vieille école, il n'utilisa pas Internet et se plongea dans de vieux journaux pour découvrir que des dizaines de personnes avaient été contaminées par ces essais et que celles qui avaient été indemnisées se comptaient sur les doigts d'une main. Deux mois s'écoulèrent encore et il connaissait le nom de celle qui avait tué Rebillard, le colonel en retraite et le haut fonctionnaire.
I'm
Il se présenta chez elle un dimanche matin, aussi bien habillé que s'il s'était rendu à l'Élysée, peut-être même mieux. Elle lui ouvrit la porte de son pavillon de banlieue, pelouse impeccable, rosiers et glaïeuls éblouissants, lisses, oranges et blancs, avec un sourire timide et retenu. Il remarqua tout de suite, dans l'entrée, la photo d'un jeune homme plein d'énergie, en habit militaire, au milieu d'autres portraits, deux petites filles blondes que l'on voyait grandir, puis vieillir, puis tenir dans leurs bras d'autres petites filles blondes qui leur ressemblaient, ressemblaient à l'homme en uniforme et à la femme âgée, élégante, timide et résolue, qui se tenait devant Province. « Vous venez m'arrêter ?» demanda-t-elle. « Je ne crains pas la justice. C'est elle qui a peur de moi. « Je suis à la retraite, madame. Je viens vous présenter mes excuses. »«
Vos excuses ? Mais... »«
Mais pourquoi ?»« Parce que, si j'avais fait correctement mon travail, ce sont les trois hommes que vous avez tués qui seraient en prison. »
Les lèvres de la vieille dame tremblèrent, puis elle éclata en sanglots, et, pour la première fois, Province le comprit à la façon dont elle parlait, dans un torrent de larmes, elle raconta son histoire. Son mari partit en Algérie pour voir du pays, alors que leurs deux filles étaient déjà nées. Sa participation aux essais nucléaires en tant que simple chauffeur des officiels, la façon dont on l'avait abandonné après des explosions mal contrôlées, la contamination, la maladie, la souffrance et la mort. Puis, le déni des autorités, le mépris de ceux-là même qui avaient envoyé son mari à la mort, le combat obscur contre des forces malfaisantes, des forces d'une puissance inouïe, le rejet, le mépris et le désir de vengeance. « Madame, demanda Province, la gorge nouée, avec tout le tact et toute la douceur dont il se sentait capable, pourquoi Hiroshima ? Je pensais que les gens comprendraient, que je serais jugé, que je pourrais tout raconter. » Province hocha la tête. « Et tout a été fait pour que ces affaires soient enterrées. »
« Oui, répondit la vieille dame. J'ai attendu. Personne n'est venu. Mes filles grandissaient. Je me devais à elles et...
C'est terrible à dire.
Ne me jugez pas. La vie a gagné. »
Le carillon d'une horloge retentit à ce moment-là et les libéra comme par enchantement des maléfices et des ombres qui remontaient du passé. Ils se regardèrent droit dans les yeux. Ceux de Province étaient noirs comme la nuit, ceux de la vieille dame bleus comme l'azur. « Je vous invite à déjeuner, dit-elle. Il y a longtemps que je n'ai plus de visite, le dimanche. » L'ex-commissaire accepta. Soulagé d'avoir enfin résolu cette enquête et plus soulagé, encore, de savoir qu'elle se conclurait par une prescription qu'il avait lui-même promulguée. Radioactivity.
dich und mich im All entsteht. Radioaktivität strahlt Wellen zum Empfangsgerät. Zukunft geht.